Alors, bonjour à tous, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de saluer. Comme il nous a été rappelé, c'est le cinquième dimanche sur un même thème, d'autres voix, mensonges auxquels j'ai cru et les vérités qui m'ont libéré. Vous voyez qu'à mon doigt, la main gauche, j'ai une alliance. Cette alliance, ça fait déjà 47 ans qu'elle est à ce doigt. Et à l'intérieur de l'alliance, il y a quelques trucs qui ont été gravés, qu'on a demandé de graver. Premièrement, dans mon alliance, il y a un nom, Rosa. Il y a une date, 5/11/75. C'est la date à laquelle nous avons commencé de fréquenter. 5 novembre 1975. Ensuite, il y a encore 2 lettres et 3 chiffres. MT 6 33. Et devinez, c'est une référence biblique, hein? Matthieu 6 33. Et certainement, beaucoup d'entre vous connaissent par cœur ce verset. Cherchez d'abord le règne de Dieu. Cherchez à faire sa volonté. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Et avec Rosa, nous avons essayé d'obéir à cet ordre de Jésus. Chercher en premier le règne de Dieu. Chercher en premier à faire sa volonté. Un mensonge auquel j'ai cru dans ma jeunesse est le suivant. Si tu te trouves dans une situation de désobéissance, ça ne sert à rien de prier, parce que Dieu ne répondra pas à ta prière. Heureusement que Dieu ne nous ressemble pas. Mon raisonnement égoïste, c'est, si tu te trouves dans cette situation, c'est bien ta faute. Alors, maintenant, débrouille-toi pour sortir de ce pétrin tout seul. 1966, j'étais en Allemagne, je travaillais dans une entreprise qui produisait des graines, de légumes, spécialement des haricots, des petits pois, des carottes, qui sélectionnaient, qui amélioraient, qui créaient des variétés qui soient plus résistantes autant aux maladies qu'aux insectes. Quelquefois, dans l'après-midi, alors que nous étions au jardin, un des employés se proposait pour aller acheter les 4 heures à la boulangerie qui était à quelques kilomètres de là. La voiture de l'entreprise, c'était une 2 chevaux. Ça vous dit quelque chose? Alors, pour se rendre à cette boulangerie, on pouvait emprunter des chemins de campagne. Et moi, j'avais 18 ans, je n'avais pas encore mon permis de conduire. Mais un jour, je me suis proposé, je voulais que j'aille acheter les 4 heures. Personne n'était contre, donc j'ai pris les commandes, prends 7, j'arrive. Tout d'un coup, je me rends compte que l'itinéraire par les chemins de campagne, ça signifie traverser un petit ruisseau. Alors, sans expérience, moi je me dis, bon, faut que je mette plein gaz pour arriver à traverser. C'est ce que j'ai fait, plein gaz. Problème, c'est que l'eau des deux côtés tombait sur le capot, du capot passait sur le moteur, piouf, arrête. Et maintenant? Alors, tout d'un coup, je me suis dit, mais je devrais prier. Alors, bon, on va prier. La prière a été courte, mais bien objective. Seigneur, s'il te plaît, tire-moi de ce pétrin. Amen. Prière finie, je tourne la clé, premier coup, il part. Alors, J'entends déjà les sceptiques. Ouais, pendant que tu as fait ta prière, c'est le temps de sécher et puis ça résout le problème. Mais pour moi, non. J'ai prié et Dieu a répondu à ma prière. Et cette expérience m'a aidé pendant toutes les années suivantes. Chaque fois qu'il y avait certaines choses à résoudre, et que je me souvenais, si Dieu répond même quand il y a une situation de désobéissance, encore plus quand tu as l'intention de vraiment faire le mieux pour lui être obéissant. Alors maintenant, malgré que la Bible affirme le contraire, j'aimerais vous dire que j'ai le sentiment d'être le chouchou de mon papa du ciel. La Bible enseigne que Dieu ne fait pas de différence, mais mon sentiment profond dit non, mais je dois être le chouchou parce que... Alors, je vous ai expliqué pourquoi. En choisissant simplement quelques expériences au cours de ma vie qui renforcent ce sentiment. Et cela a commencé déjà à ma naissance. 13 décembre 1947, je suis né à Moudon. Mes parents étaient salutistes et membres du poste de Moudon. Je suis le numéro 4 dans la famille. Donc, j'avais déjà un frère, André, de 6 ans, une sœur, Ruth, de 5 ans, et un autre frère, Walter, de 3 ans. Ma grand-mère maternelle habitait avec nous. Elle s'occupait beaucoup de mon frère Walter. Trop au goût de ma maman. Certainement, vous pouvez vous imaginer, Walter commence à pleurer, la maman se prépare pour aller voir, la grand-maman, « Non, laisse, j'irai, reste assis. » Voilà, c'est elle qui va, qui le console. Walter fait une bêtise, la maman le gronde, la grand-maman, la vite cherche un chocolat, une sucette, non, c'est rien. Alors, vous pouvez s'imaginer la frustration de la maman. C'est dit, mais finalement, c'est mon gamin quand même, c'est à moi de l'élever, c'est moi qui sais ce qui est le mieux pour elle. Alors, à ma naissance, d'après ce que ma sœur Ruth m'a raconté, ma maman fait la déclaration suivante. Celui-ci, personne ne va me le prendre. Ça, c'est le petit bonheur à maman. Alors, c'est les circonstances dans lesquelles je suis né. Une maman qui désirait vraiment donner tout son amour à son petit et faire bien attention que personne d'autre ait cette responsabilité et ce privilège d'un petit enfant à prendre soin. À 18 ans, après avoir fait un apprentissage de 2 ans comme vendeur chez un marchand grainier à Lausanne, j'ai décidé d'aller faire un stage d'une année en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Là, je dois rendre hommage à mon patron, parce que après l'apprentissage, on avait parlé un jour, j'ai dit, j'aimerais bien faire un stage en Angleterre. Il a réfléchi un peu, puis dit, bon, en tant que Suisse, je crois que tu aurais meilleur temps d'aller apprendre l'allemand. Ah, maintenant, je te déconseille d'aller en Suisse allemand parce qu'ils s'apprêtent tous le français. Tu vas pas apprendre grand chose. Ils vont essayer d'entretenir leur connaissance de français, puis toi, tu vas perdre l'occasion d'apprendre l'allemand. Alors, va plutôt en Allemagne. Si tu veux, je te donne un coup de main parce que on a des fournisseurs qui sont en Allemagne. Tu peux leur écrire, leur demander s'ils accepteraient pas de recevoir un jeune Suisse pour une année. Et c'est ce qui s'est passé. C'était une entreprise près de Göttingen, dans le centre de l'Allemagne, qui faisait justement ces sélections de graines, de légumes spécialement. Alors, me voilà parti en train. Il y a eu un problème de communication. J'avais annoncé mon heure d'arrivée, ça devait être 7 heures du matin. Et puis, quand j'arrive, je vois personne. Et maintenant, avec connaissance d'allemand de l'école, j'allais pas très loin. Heureusement, j'avais sur un papier l'adresse où je devais aller, puis j'ai commencé à montrer aux gens. Ah, ils m'ont pointé. C'est ce bus que tu dois prendre. Je suis allé là, j'ai montré au chauffeur. Dit, ok, je te ferai signe quand tu dois descendre. Et je suis arrivé à la bonne place. Quand je suis arrivé, juste peu de temps après, quelqu'un frappe à la porte. C'était le chauffeur qui devait aller me chercher à la gare. Ça faisait une heure que moi, j'étais déjà arrivé. Et ça, c'était mes premières heures en Allemagne. Quand j'avais dit à mes parents que j'allais en Allemagne, j'étais déjà soldat, j'étais l'armée du salut de Lausanne. Et puis ma maman m'a posé la question, tu veux prendre ton uniforme? Oh non, je ne sais même pas si c'est l'armée du salut. Elle n'a pas insisté. Donc. Et puis quand même, dans les premières semaines, je me suis dit, mais je me demande si c'est l'armée du salut. J'ai demandé à quelqu'un qui travaille avec moi, oh, je crois que j'ai déjà vu une... C'est une femme bizarre, avec un chapeau, là. Je sens que ça doit y avoir. Alors, j'ai pris le bulletin de téléphone, Heilsarmee. Ah, j'ai trouvé une adresse. Je suis arrivé là. Alors, il y avait le poste de Göttingen, qui en même temps était un foyer pour hommes. Et les responsables étaient des brigadiers, déjà d'un certain âge, déjà près de la retraite, peut-être 60, 62 ans. Et puis là, la brigadière me pose quelques questions. Une des premières, c'est ton nom? Roland. Roland? Ach, wie schön! Mais pourquoi? Elle m'a fait savoir que son cadet s'appelait Roland. Ça faisait peut-être 15 jours qu'il était parti pour aller faire un stage en Angleterre. Alors, tu vas le remplacer. Tu seras mon Roland. Et de cette façon, tous les dimanches, j'étais invité à aller manger à l'institution. Je pouvais aller dîner, j'étais avec les hommes d'institution, c'était garanti. Pendant la semaine, je recevais le dîner là où je travaillais, il y avait une cantine, et puis le dimanche, à l'armée du salut. Mais souvent, j'arrivais le dimanche soir, c'était « Ach, wie schön, Bruder Roland, wie schön wieder da !» Vraiment une maman pendant ces 12 mois que j'étais en Allemagne. Quand j'ai décidé de rentrer, entre-temps, j'avais bien sûr demandé qu'elle m'envoie mon uniforme. Après, j'ai demandé qu'il m'envoie mon vélo. Et après une année en Allemagne, j'ai décidé de rentrer en vélo. Donc, traverser toute l'Allemagne, d'abord de Hambourg à Göttingen, puis 10 jours après, de Göttingen à Lausanne. Prenant mon temps, m'arrêtant dans des auberges jeunesse. Et puis voilà, c'était mon épopée en Allemagne. 1970, Australie. J'avais décidé d'aller en Australie grâce à un témoignage de Bernard Hanselmann. J'étais dans un camp de ski à Adelboden. Mais ça faisait peu de temps qu'il était rentré d'Australie. Il était là, il nous montrait des diapos. Et tout enthousiaste, son expérience de 2 ans en Australie avait été formidable. Il était là avec un des fils Meillant. Et plus tard, 2 autres de Lausanne sont aussi allés en Australie. Et quand je leur ai posé la question, « Vous croyez que vous pourriez m'aider à trouver un endroit où je peux être logé ?» On dit, bon, on peut toujours essayer. Nous, on a été logés chez une colonelle à la retraite. Seulement maintenant, avant, elle avait une maison à elle. Maintenant, elle est dans un appartement. Je ne sais pas si elle a encore possibilité de recevoir. Ils ont quand même accepté d'écrire. Et puis, elle a accepté de ça. Moi, je faisais mes recherches en entre-temps. Comment que je vais me débrouiller pour mon voyage en Australie? J'avais pas encore grand-chose comme économie. Et... j'ai créé une entreprise de voyage, hein, je pensais peut-être d'aller en bateau, et de m'offrir pour faire partie de l'équipage, de faire les nettoyages, quoi que ce soit pour payer mon voyage. Mais dans une correspondance que je reçois, tout d'un coup, je vois un système d'assistance aux immigrés. Marqué, condition, rester en Australie au moins 2 ans. Le gouvernement australien payera le voyage. Peine à y croire. C'est loin l'Australie. Hein? Mais effectivement, Lausanne-Genève, Genève-Londres, une nuit à l'hôtel à Londres, Londres-Sydney, un avion spécial seulement pour les émigrés, tout payé par le gouvernement australien. Alors, c'était vraiment l'aubaine pour moi. C'est trop beau. Voilà parti. À l'arrivée, matin d'un officier de l'armée du salut, ça faisait partie de son travail, recevoir les émigrants. Il arrivait à l'aéroport, leur souhaitait la bienvenue, et moi, m'a reçu, m'a amené chez la colonelle Menzies, qui était une officière célibataire à la retraite, mais qui faisait encore quelques travaux au quartier général, de temps à autre, bénévolement. Alors, il m'a très bien reçu, il connaissait déjà un peu le système suisse avec les deux Lausannois qui avaient vécu chez elle. Et quand elle allait au quartier, qu'elle parlait de moi, elle disait « My Swiss boy ». Alors, j'avais trouvé de nouveau une maman, là, loin de chez moi, qui a bien pris soin de moi pendant un peu plus de 2 ans. Ensuite, elle est décédée. Et une famille du poste m'a accueilli. Ils avaient un fils à peu près de mon âge. Et c'était de nouveau une famille qui me recevait. Et un clin d'œil de la part de Dieu. Je prends soin de toi. T'es mon chouchou. Souviens-toi. Retour en Suisse, 75. Donc, la condition, c'était rester 2 ans en Australie. J'y suis resté 5. Il me plaisait bien. Et avant de rentrer, j'ai vu qu'il était possible d'obtenir la nationalité australienne. Je me suis dit, je vais faire ça. Si j'ai le passeport australien, ça va être bien plus facile de revenir si tout d'un coup je m'habitue plus au système européen. Mais Dieu avait d'autres plans pour moi. D'ailleurs, avant de quitter l'Australie, j'avais organisé une réunion de revoir dans le poste où j'étais. Et je leur avais demandé qu'ils prient pour moi. Je retourne en Suisse, mais j'ai aucune idée de ce que je vais faire. Alors, priez Dieu qu'il me conduise. 75, je arrive en Suisse, à Lausanne, et en peu de semaines, quelqu'un m'invite à aller à Orvin-sur-Bienne, aller travailler comme jardinier dans une maison chrétienne. Peut-être certains d'entre vous connaissent, à l'époque, il n'y avait pas encore l'Institut Bethel, mais il y avait une maison pour personnes âgées qui était conduite par des gens du Bruderverein. Donc, le directeur était suisse-allemand, mais il y avait aussi des Romains qui travaillaient là. Alors, je suis allé commencer à travailler là et j'allais au poste de Bienne romain. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Rosa, ma future épouse, qui elle venait de Tramelan, mais qui travaillait comme infirmière à la ville de Bienne, et qui, quand elle était de plein temps, le week-end, allait à l'armée du salut à Bienne-Rome. Donc c'est là qu'on a fait connaissance, qu'on a commencé à fréquenter. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent des capitaines Quenet. Ils ont eu un passage à Tramelan, après ils étaient à Moudon. Et quand ma maman a parlé avec eux, elle dit « Ah, notre fils est rentré d'Australie, il est maintenant au poste de Bienne. » Et puis d'ailleurs, il a commencé à fréquenter une jeune de Tramelan, Rosa Loubert. Capitaine Quenet, Rosa Loubert, vous la connaissez bien, c'est une perle. Évidemment, je peux confirmer, et cette perle prendre la valeur encore à chaque année qui passe. C'est une perle précieuse que Dieu avait réservée pour moi. Peu de semaines après mon retour, alors que j'étais au jardin, là, à Orvin, on préparait pour garder les carottes hein, pour l'hiver. Il fallait creuser, il fallait mettre une couche de sable, une couche de carottes, une couche de sable, une couche de carottes. J'étais seul à les préparer, couper les feuilles. Et je me remémorais un téléphone que ma fiancée avait fait à l'heure du dîner. Elle dit, j'ai dit à ma sœur aînée que je fréquentais, que c'est un salutiste. Je sais pas ce qu'elle m'a demandé. Ouais, mais vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école militaire, ou bien. Moi, je lui ai répondu, non, on n'est pas obligé, mais on fera ce que Dieu veut. Alors, je réfléchissais à ça. Tout d'un coup, mais de manière très claire et forte, sans l'appel, Dieu me dit, officier de l'armée du salut, Brésil. C'était tellement fort que la même semaine, j'ai décidé d'écrire au général. J'étais tellement content, c'était le Clarence Wiseman. Alors j'écris, cher général, je suis je l'appelle pour devenir officier de l'armée du salut, j'aimerais faire l'école militaire à Londres. Et quelques jours après, il me répond, le général lui-même, très content de savoir ton appel, et j'ai passé ta lettre au secrétaire national pour l'Europe. Passé encore quelques jours, je reçois de nouveau une lettre, secrétaire national pour l'Europe, qui me dit aussi sa joie de savoir que j'ai reçu cet appel. Alors, gentiment, il me dit, ça serait bien de passer par la filière normale, aller directement au général, pas besoin d'un officier de poste qui en parlera au divisionnaire, qui, si c'est le cas pour Londres, il en parlera au chef national, et on sera tout content de vous accueillir ici à Londres, si c'est bien cela que Dieu a en réserve pour vous. Alors, on s'est mis à obéir, on a parlé à notre officier, qui était le major Loseley. Ensuite, nous sommes allés à la division du Jura, à Neuchâtel. C'était le brigadier Poret, à l'époque. Et tout ça s'est passé très rapidement. Je suis rentré d'Australie en 75. Commencé à fréquenter en 75, déjà, au mois de novembre. Marie en 76. Cindy est née en 77. Et l'école militaire a commencé en 77. Alors, je me suis souvenu, quand on a vu la possibilité de venir ici à Orbe, avant cette occasion qui nous est donnée cette année, je suis venu deux fois à Orbe le siècle passé. C'est drôle, hein, parler au 20e siècle. En 77, on est venu avec les cadets ici pour une campagne. Et ensuite, nous étions déjà officiers au Brésil, et les officiers ici étaient les Poget. Jean et Christian Poget nous ont invités pour parler un peu du Brésil et notre ministère là. Donc, maintenant, de retour, déjà à la retraite depuis 10 ans, mais heureux d'être dans cet endroit où Dieu continue de travailler, toucher les cœurs. Alors voilà, j'en reviens à la chronologie. 77, donc, Cindy est née, on entre à l'école militaire. 78, naissance de Claudia pendant notre stage à Lausanne. Le nom de notre session était les joyeux évangélistes. 79, la consécration et premier ordre de marche pour le poste d'aigle. Nous sommes restés 2 ans. De là, quand nous avons rempli nos papiers pour l'école militaire, il y a une question, est-ce que vous avez un appel missionnaire? Si oui, est-ce que vous avez un pays spécifique? Alors, c'était oui, Brésil. On était déjà sur une liste d'attente. Et quand on a reçu notre ordre de marche pour quitter Aigle, on a reçu un ordre de marche pour la Belgique. Rosa fait cette réflexion. Je crois qu'au quartier, ils ont pas très bien vu leur cartographie. On a parlé du Brésil, ici c'est Belgique. Ça commence bien par la même lettre, mais c'est pas le même pays. Cependant, on s'est rendu compte que c'était déjà une bonne préparation, parce que la Belgique est très catholique. Donc la situation était différente de la Suisse. Et pour nous, c'était déjà une préparation pour la mission. Et là, en Belgique est né Jonathan, notre troisième, et nous sommes partis alors, pour la mission en 84. Jonathan avait 2 ans. Nous sommes arrivés au Brésil le 12 octobre 84, qui est justement le jour des enfants. Je crois que ça n'existe pas en Suisse, hein, mais là c'est assez fort, jour des enfants. D'ailleurs, tous les commerces en profitent, hein. C'est le jour des enfants. Rappelez-vous de leur donner des jouets. Et c'est un peu comme les fêtes des mères, hein, fêtes des pères, Noël, Pâques, hein, une chose commerciale. Et c'est un jour férié parce qu'en plus d'être le jour des enfants, c'est encore au niveau des catholiques, le jour de notre Seigneur, comment on dit, Notre-Dame, hein, Notre-Dame, pas les cides. Alors voilà, on est On se trouve au Brésil, on nous donne 2-3 mois pour nous adapter. On est dans un foyer pour enfants et on prépare nos... On doit avoir certains papiers qui nous autorisent à rester au Brésil. Et on reçoit notre première ordre de marche pour un poste qui se trouve dans un grand port au sud là, du Brésil, qui s'appelle Paranaguá. Nous sommes restés là 3 ans et demi. De là, le deuxième ordre de marche nous amène à Belo Horizonte. Alors, c'est là que Thierry est né. Il était à peine arrivé, un mois après notre arrivée. C'était la naissance de Thierry, 30 juillet 88. Nous sommes restés à peine 2 ans dans ce poste. Là, on nous a envoyés dans une ferme, un foyer pour garçons, 40 garçons. Et nous, comme les parents de ces garçons. Pendant la journée, on avait 2-3 employés qui nous aidaient, mais à partir de 5 heures de l'après-midi, on était tout seul. Et vous savez comment sont les enfants. Répartis en 2 dortoirs. Un dortoir pour les plus petits, un dortoir pour les adolescents. Alors, on entendait du bruit. Arrivé au moment où j'ouvre la porte, tout le monde... C'est comme ça. Qui s'est fait cette personne? À peine fermé la porte, alors on a vécu cette ambiance de 2 ans et demi. On cultivait, on avait des vaches, on avait des cochons, bien différent de notre travail de poste. Mais nous avions toujours en fin de semaine, il y avait l'école du dimanche, on faisait un culte aussi l'après-midi. Et de temps à autre, on allait jusqu'à Belo Horizonte, qui était à près de 70 kilomètres, je pense, de là, pour, où il y a 2 postes de l'armée du salut. Alors là, c'était le plus grand contraste, parce que de la ferme, on nous a envoyés au centre de São Paulo. São Paulo, la banlieue, a bientôt 20 millions d'habitants. Donc on peut s'imaginer du contraste, le quartier... oriental, beaucoup de descendants japonais, descendants de coréens, chinois, et une circulation pas possible, une pollution. Mais finalement, on s'adapte, hein. On n'est pas dans une ville de 20 millions d'habitants, on est dans une ville, il y a un quartier, il y a une rue, et voilà, on s'occupe des personnes qui sont plus près, là. Et la réalité du centre de São Paulo, c'était beaucoup d'enfants dans la rue. Dormaient dans la rue, qui sniffaient de la colle pour les souiller. Hein. Et on a décidé de commencer à essayer de faire quelque chose pour ces enfants. Alors on a réussi à adapter le bâtiment où on était. Il y avait des caves où, dans le passé, avait déjà fonctionné un genre de refuge pour des hommes. Et alors, on a pu faire des réparations et l'adapter pour recevoir des enfants. Les enfants pouvaient venir arriver le soir, avoir le souper, pouvoir prendre une douche et dormir là. Et la condition, c'est que pendant la journée, ils aillent participer à un autre projet. Beaucoup de projets fonctionnaient uniquement pendant la journée. Et là, on a commencé ce projet. Il fallait trouver un nom pour l'identifier, et ça nous a mis à cœur de l'appeler les 3 cœurs, 3 corações. Le cœur de Dieu qui déverse son amour dans notre cœur, et de notre cœur, nous pouvons atteindre le cœur de ces enfants qui n'ont pas besoin. 5 ans à São Paulo, de là, on nous a envoyé à Recife, Recife au nord-est, là où Clarissa est née. Notre autre belle-fille também, également la femme de Thierry, aussi née, de Jonathan, aussi née à Recife, c'est dans la région nord-est. Et c'est là que nous avons passé le plus de temps comme officiers. Nous étions 14 ans à Recife. Hein. C'est là que Thierry aussi a passé une 20aine d'années de sa vie. De Recife, alors qu'il ne me restait plus qu'une année avant d'arriver à la retraite, on était convoqué par le chef du Brésil. On avait une chose administrative à régler, justement, en pensant à la retraite qui s'approchait. Et la première chose, ah, mais vous allez voir un changement, mais une enveloppe sur la table. On est resté congelé à cette. Après 14 ans, même endroit, une année de retraite, seulement pour Rosa, il reste encore 3 ans, 4 ans plus jeune. Donc, on nous envoie dans la capitale, Brasilia. Et Rosa souvent disait, mais qu'est-ce qu'on va aller faire à Brasilia? Qu'est-ce qu'on va aller faire à Brasilia? À Brasilia, il y a juste le poste qui fonctionne. Alors qu'à Recife, il y avait le poste, il y avait l'institution qui recevait une centaine d'enfants tous les jours. Et ensuite, on avait encore pu acheter un terrain pour faire un camp de vacances, un camp de formation. Donc, nous avions ces trois responsabilités. Tout d'un coup, ça allait se réduire à un poste. Mais Dieu nous a parlé aussi pour ce dernier hors de marche. Votre responsabilité principale, c'est d'aimer. Aimer les postes du poste, les postes qui sont les gens qui fréquentent le poste, et vous allez bien découvrir ce qui devra être vos priorités. Alors voilà pour ma part. 2012, arrivé fin de mois de décembre, le temps de la retraite. Alors là, encore un petit signe de la part de Dieu, montrant que j'étais son chouchou. Quand on est encore à Recife, on a commencé à aller visiter certains endroits, soit un appartement, soit un terrain, soit une maison. On n'avait rien trouvé. Alors, à Brasilia, on commençait à parler, quand les gens demandaient, puis après, vous allez faire quoi? Ben, on ne sait pas, on ne sait encore pas où on ira habiter. Et puis, lors d'un téléphone, que Rosa, avec son beau-frère, Charles-André Geyser, parlait de la retraite, puis il dit, mais moi, il me semble que l'armée du salut, avec l'ABS, je crois que vous appelez ça le deuxième pilier, hein, dépose pour le deuxième pilier. Et la politique de l'ABS, c'est que si ça vous intéresse, vous pouvez retirer une partie pour, si c'est pour construire. Vous avez jamais entendu parler de ça? Ah ouais, ah bon, on s'est renseigné, on a écrit au quartier, puis ils ont confirmé. Ouais, mais il y a des délais, il faut le faire jusqu'à telle date. On a fait la demande pour moi. Et puis, une des dames de la Ligue du Foyer, on a commencé à parler de ça, ben nous on habite une trentaine de kilomètres d'ici, à la campagne, et puis le lotissement où on habite, il y a encore des terrains à vendre. Alors on est allé, on est voir sur place, et puis ça nous a plu, c'est vraiment au milieu de la campagne, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que vous dites, lotissement, mais il y a 360 terrains, tous ne sont pas construits encore, après il y a un mur tout autour, il y a une entrée, une réception, et donc ça donne une certaine sécurité. Toutes les personnes qui n'habitent pas là, qui viennent visiter, doivent donner leur identité. Il y a ensuite un groupe de 3-4 employés qui continuellement, en moto, font tout le tour du lotissement, passent dans chaque rue, jour et nuit, pour contrôler, pour voir s'il n'y a pas de problème. Bon, on a trouvé un terrain, grand terrain, 810 mètres carrés. Ensuite, on avait régulièrement des réunions avec les pasteurs. Et puis, quand on en a parlé, on dit, ben, maintenant, on va devoir construire. Un des pasteurs dit, on vient de rénover notre église. Et puis, on est tombé sur un couple d'architectes. Vraiment, ils ont fait du bon travail. Si ça vous intéresse, on peut vous indiquer ou parler avec eux. Bon, ils les ont envoyés. On pose un peu la question, vous voyez comment votre maison? Pas grande idée, ben, je ne sais pas, 2 pièces, 3 pièces, on aimerait quand même pouvoir recevoir des visites, on a des enfants, alors bon, ils ont fait les plans. Après, un autre pasteur dit, oh, commande mon église, il y a un entrepreneur, et il est sérieux, il fait du bon travail, on a trouvé cet entrepreneur, et ça nous a bien rendu service, parce que si on ne connaît rien en construction, c'est vite fait rouler, hein, parce qu'il a dit, ouais, j'ai acheté 50 sacs de ciment. En fait, 40 sont arrivés jusqu'au lieu de construction, 10 sont partis ailleurs. Et puis, si on n'est pas sur place pour contrôler. Alors, étant un chrétien, on a déjà quand même bon pourcentage de chances qu'il va être sérieux, il va être honnête. Et ça a été le cas pour nous. Il nous a même donné un bon conseil. On avait prévu une maison sur 2 étages parce qu'on aurait voulu profiter de la vue. C'était où la maison a été construite, c'est le plus haut, le point le plus haut du lotissement. Alors depuis là, on a une excellente vue. On voulait simplement faire une terrasse ouverte. Et lui nous a conseillé, moi, si vous aurez le meilleur temps de fermer, mettre des vitres, parce que il y a certaines époques de l'année où ça souffle vraiment beaucoup, il y a de la pluie. Et puis on a accepté son conseil. Non seulement on a fermé la terrasse, mais on a fait aussi une chambre de visite, une toilette, et on a fait séparer toilette et douche séparées, et puis une petite cuisinière électrique, comme ça si on reçoit quelqu'un, c'est indépendant. Alors on a une grande salle, là, au premier étage, et puis une vue splendide, on a mis des fenêtres partout. Alors voilà, on se retrouve donc avec une belle maison, avec un grand jardin, en tout cas 500 mètres carrés au bord du gazon, des arbres fruitiers, des légumes, de quoi bien m'occuper pendant ma retraite. On arrive à une époque un peu plus récente, l'année dernière, quand on reçoit la bonne nouvelle que chez Thierry, ils attendent leur 3e enfant. Une fois par semaine, en principe, je téléphone à ma sœur Ruth, c'est la seule qui reste de la famille. Et puis, en général, c'est le mardi que je téléphone, et puis j'annonce, on a une bonne nouvelle, chez Thierry, on reçoit leur 3e enfant. Ah ouais? Vous avez l'intention d'aller en Suisse? C'est pas l'envie qui nous manque. Qu'on voit maintenant ce qu'on peut trouver comme billet. Ah ben justement, il y a peu de temps en arrière, je pensais, là, il y a 30 ans en arrière, quand maman est décédée, j'avais reçu une certaine somme d'argent, je l'ai mis sur un compte épargne, jamais touché. Puis ça m'est venu à l'idée, je pourrais peut-être aider Roland à venir une fois en Suisse. Alors maintenant que tu m'en parles, bon, c'est à vous. Alors, les billets d'avion payés. Encore un clin d'œil de la part de Dieu. De cette manière, on a eu le privilège d'être les témoins des premières heures de vie de Mila, de pouvoir accompagner ces premiers moments. Après 39 ans de Brésil, il y a parfois des doutes sur certaines expressions. Il y a une expression en portugais qui dit « ce n'est pas qu'une mer de roses ». Je ne sais pas si on dirait un tapis fleuri en Suisse ou parcours de vie. Alors maintenant, je vous ai raconté d'abord tous les points positifs et j'ai aussi parlé quelques épreuves que nous avons eues pendant ce temps comme officier. Peut-être le plus difficile, c'est quand l'adversité a pour origine une ou des personnes qui auraient dû être une source de bénédiction. Alors, une de ces expériences, c'était en Belgique. Nous avions la responsabilité du poste. Une autre famille, un groupe d'officiers, avait la responsabilité du foyer pour hommes. Et les deux fonctionnent dans le même local à Liège. Alors, au début, tout allait bien, quelques semaines, je ne sais pas exactement combien sont passées. Tout d'un coup, le capitaine d'époque, il se retourne contre nous, il commence à travailler contre nous, de nous appuyer. Il avait 2 enfants adolescents, peut-être 12, 14 ans. Et on avait prévu pour le club des jeunes, un samedi, une rencontre, quand on arrive sur place, personne. C'est bizarre quand même. Il semblait que ça les intéressait. Il y en avait 5 ou 6. On rencontre quelqu'un. Vous ne savez pas où sont les jeunes? Ah ouais, le capitaine les a invités pour aller manger une glace. Ils sont juste à l'heure où on devait se rencontrer. Une autre chose négative avec ces officiers, ils fournissaient le dîner non seulement pour les hommes qui étaient au foyer, mais ils préparaient des poissons et des marmites ici aussi, qu'on peut aller acheter et prendre, l'emporter. Et quelquefois, je suis allé, parce qu'on aidait une dame âgée, alors j'allais lui acheter son dîner, lui apporter. Un jour que je suis arrivé là, il m'a dit non, il n'a pas aimé. Comment ça non? Non, le capitaine a dit que pour le lieutenant, il n'y a pas de marmite, il ne peut pas aller là. Comment c'est possible? Un autre jour, on se croise, on est en voiture, bon, s'arrête au milieu du carrefour, il commence à m'insulter, je ne sais plus sur quel sujet. Rendez compte de deux officiers en uniforme et s'injurier là, sur la place publique. Donc, c'était un moment difficile. Et Rosa, plusieurs fois, a dit si je n'avais pas eu la certitude de l'appel de Dieu, je crois que j'aurais craqué à ce moment-là, j'aurais tout balancé. Une autre chose négative, cette fois en Australie, il aurait dû être une aide de la part de personnes qui s'étaient annoncées comme volontaires. Il venait de Suisse, mais il était canadien et elle suissesse. Ils étaient candidats déjà pour l'école militaire et ils désiraient faire un temps de mission. Ils étaient contents de pouvoir les recevoir et recevoir cette aide de leur part. Et là aussi, au bout de quelques mois, la situation s'est retournée contre nous. Et je ne sais pas si c'était par jalousie ou ce qui s'est passé dans la tête de ce gars. Il a réussi à convaincre une jeune du poste, je pense qu'elle a peut-être 15, 16 ans, a dénoncé l'officier pour abus sexuel. Alors, il a fait écrire cette accusation. Lui, il l'a traduite en anglais, elle l'a envoyée à Londres. Quand on est arrivé pour les vacances missionnaires, on était convoqué par le chef de territoire, à l'époque était le commissaire Edward Brown, qui me connaissait bien, dit « Je suis désolé, mais j'ai reçu ça, poser des questions ». Bon, c'est compliqué, hein? C'est la parole d'une jeune contre ma parole. Comment prouver le contraire? Enfin, j'ai dit ce que je ressentais. Les choses sont arrangées comme ça, mais ça laisse des blessures, des traces. Hein? Pendant ce temps, les nouvelles vont vite. Hein? Ça se raconte. Ouais, ben, l'officier d'autre poste, il paraît qu'il a abusé. On se trouve, heureusement Dieu est fidèle et il nous aide à surmonter ces moments plus difficiles. Maintenant encore, comme vous le savez certainement, il y a bien des endroits au Brésil qui sont dangereux, hein, il y a beaucoup de violence et malheureusement on en a aussi vécu personnellement, il y a de niveau des arnaques, 5 arnaques de ces 39 ans. 2 à São Paulo. Une, je venais d'aller chercher l'argent à la banque pour payer les employés. Je descendais les escaliers pour aller prendre le métro et quelqu'un m'arrête, une arme à la main, passe-moi ta sacoche. Pas grand-chose à faire, hein, tu restes là, tu remets. Mais le choc, hein? Et puis ensuite il faut voir d'une voie administrative, aviser le quartier, expliquer, donner les détails, faire déposer plainte à la police et tout ça. Une autre, encore à São Paulo, je m'arrête sur une place pour acheter un hot dog. Alors, j'avais, un attaché case, c'est une petite valise, je la mets entre mes jambes et puis je commence à manger. Il y en a un qui arrive près de moi, touche par derrière, il me dit « Hey, t'as de la moutarde sur ta tunique. » Et puis en me disant ça, il me tire un peu de côté, moi je m'éloigne de la valise, puis pendant qu'il fait semblant de me nettoyer, quelqu'un prend la valise, il n'y a rien. Je me retourne, plus de valise. Bien. Un autre qui me dit, qu'est-ce que tu cherches? Une valise noire. Ah oui, j'ai vu un gars qui partait par là-bas avec la valise. La valise était partie de ce côté, puis il m'envoyait de l'autre côté. Alors, on a retrouvé la valise, mais vide. Hein. Et à l'époque, les paiements se faisaient beaucoup par des talons de chèque. Et puis, vu qu'on avait différents comptes, il y avait au moins trois comptes différents, plusieurs talons de chèque, il fallait aller de nouveau à la police et essayer de se souvenir des numéros des talons de chèque, bloquer les comptes. Et le sentiment d'avoir bien été roulé, surtout. Passe à Recife. Hein. À Recife, on avait, je pense, une douzaine d'employés pour aider au centre communautaire. Et chaque mois, en plus de leur salaire, ils recevaient des tickets de transport. Alors, une fois par mois, c'est moi qui allais les chercher avec le combi, avec le bus bébé. Et puis, une fois que j'étais allé, j'arrive à un feu rouge. Au moment où je m'arrête, une moto qui arrive tout près, là, celui qui était derrière la moto, fait le tour du combi. Et puis, moi, au réflexe, j'ai pris la serviette, je l'ai lancée sur le siège du milieu. Il est carrément entré dans le combi, pris la serviette, parti. Au moment où il repartait, il a replié la plaque de la moto. Je sais pas que j'ai le temps de noter. J'pensais justement noter. Il a replié, il est parti. C'est passé un peu plus d'un mois. Je devais nous aller en chercher. Alors, cette fois, je me suis dit, je vais les planquer derrière, les mettre sous le tapis derrière, un caoutchouc. J'arrive au poste. À nouveau, une moto arrive à mon côté, une arme à la main, et puis il devait y avoir quelqu'un qui était complice, qui avait vu ce que j'avais fait. Allez, ouvre-moi la porte là derrière, donne-moi ces tickets de transport. Et puis, quand même un peu nerveux de cette situation, il a un peu de peine à ouvrir, puis lui, il commence à s'énerver, il prend la crosse, tape sur la tête, commence à saigner. Mais suffisamment de temps pour que je puisse rentrer et puis les laisser prendre ces tickets et s'en aller. Heureusement, la blessure n'a pas été grave, mais c'est surtout le choc émotionnel. Une autre situation, cette fois, c'est plus dramatique parce que on venait de participer à une réunion avec des pasteurs, une conférence. Et on arrive au poste, Rosa descend du bus bébé pour aller ouvrir les grillages du garage. Et puis pendant qu'elle est en train d'ouvrir, deux jeunes arrivent, un de chaque côté, un avec une arme, l'autre non. Ils disent de me pousser de côté, m'asseoir au milieu, un prend le volant, l'autre à côté. Puis quand Rosa s'approche, d'abord elle avait cru que c'était deux jeunes du poste. Et puis, ils ont dit, t'as avantage à pas appeler la police, hein, si t'as envie de voir ton mari vivant. Et puis, à moi, ils m'ont dit, tu nous diras comment sortir de la ville, parce qu'on n'est pas d'ici, on sait pas très bien comment, par où passer. Et puis, on a besoin de ce véhicule, on regrette, on a besoin de ce véhicule, on veut aider un de nos amis qui est encore en prison. Alors, je sais pas les détails, comment ils allaient faire ça, mais ils allaient utiliser le bus bébé pour le transport. Alors voilà, Rosa est montée, on a habité à l'étage, et puis donc, on part avec le bus bébé. Et puis, pendant qu'on était en route, hein, on demandait le porte-monnaie. J'ai réussi à leur demander de me rendre les documents, moi, la carte d'identité, permis de conduire. Hein, et puis, heureusement, ils ont été d'accord. En prenant l'argent, ils ont vu qu'il y avait quelques dollars. Puis, ils disaient, bah, ça ne sert à rien, ces dollars. C'est encore moi qui leur ai expliqué, non, mais vous pouvez les changer, vous allez à tel centre, un centre commercial. Là, Un des jeunes dit, oh, quand j'étais gamin, j'accompagnais ma grand-maman à l'Assemblée de Dieu. On allait à l'église. Commençait à discuter presque comme des amis. Tout d'un coup, il s'est rendu compte, il a remis son arme en place. Et puis, ça passait, je pense, 15-20 minutes. Mais c'était déjà près de 11 heures du soir. Ils m'ont arrêté à un endroit, ils m'ont dit, là, il y a un arrêt de bus, prends le bus pour rentrer. Alors, ce qui m'a aidé, c'est que cette même soirée, j'ai rencontré un des pasteurs à qui j'avais prêté un peu d'argent. Il me l'a rendu, au lieu de le mettre dans le porte-monnaie, je l'ai enfilé dans la poche arrière, ce qui m'a permis de prendre le bus jusqu'au centre-ville, et ensuite un taxi, parce qu'il n'y avait plus de bus qui passait jusqu'au poste. Entre-temps, Rosette est montée. À un moment donné, dans le combi, ils m'ont demandé, « Tu crois que ta femme a appelé la police ?» Je dis, oh, « Je pense pas, je pense qu'elle est en train de faire maintenant, elle est en train de prier. » Et effectivement, elle est montée, elle a dit à Thierry, « Téléphone à tel pasteur, deux, trois pasteurs, téléphone, demande qui prie. » Et lorsqu'il est arrivé, ils ont de la peine à le croire. « Comment, on vient de se quitter, qu'est-ce que tu racontes là ?»« Non, ils m'ont kidnappé mon père. » Et puis, s'engager à vraiment prier pour ça. Et quand je suis arrivé, finalement, en taxi, c'était peut-être 1h du matin, il y avait effectivement un ou deux pasteurs, plusieurs membres du poste, et puis qui ont vu que tout était bien, à part le fait d'avoir perdu le combi. Et finalement, ce bus bébé, on avait déjà prévu le remplacer. On avait obtenu l'autorisation de la Suisse pour commander un bus bébé neuf. Alors, on avait fait un sondage sur combien valait ce bus bébé, combien il nous fallait pour en acheter un nouveau. Et ça va toujours un peu long, hein, cette tramitation. À l'époque où on était prêt à nous envoyer l'argent, ça avait dévalué, on n'aurait plus assez vraiment pour un bus neuf. Mais, vu que le bus était à l'assurance, l'argent d'assurance était un peu plus haut parce que nous, on aurait pu le vendre. Finalement, on a pu avoir notre bus tout neuf. Le poste y a gagné. Donc, moi, émotionnellement, non. C'était un peu difficile après chaque soir que j'allais ouvrir ou fermer la porte du garage. J'étais pas trop tranquille. Mais Dieu nous a gardés. Et là, je me suis souvenu de ce verset. Philippiens 4, 6 et 7, que la plupart de vous connaissez aussi par cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute circonstance, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin. Et faites-le avec un cœur reconnaissant, que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées, unis avec Jésus-Christ. Et là, cette paix, vraiment, je l'ai expérimentée justement dans ce cas de kidnapping éclair, là, dans le bus bébé. Et plus récemment, au mois de décembre, l'année dernière, alors que j'ai fait un infarctus à l'hôpital. J'ai passé 10 jours à l'hôpital, mais la plupart du temps à l'hôpital, c'était simplement de remercier Dieu, de dire « Je suis prêt quand tu veux, si c'est maintenant, toi qui sais. » Mais tranquillité, hein, cette paix de Dieu qui dépasse toute intelligence. Alors, je reviens à ce verset, cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté. Je pense que c'est pas pour rien. Ceux qui étaient à l'ascension l'ont entendu aussi. Je crois que Dieu a quelque chose à nous dire dans ce sens-là. C'est très bien, c'est très important de connaître des versets par cœur. C'est encore beaucoup plus important de les mettre en pratique. Alors, c'est le défi que j'aimerais vous laisser ce matin, mettre en pratique ce verset. Cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté. Le reste, c'est lui qui va s'en occuper. En conclusion, j'ai demandé qu'on puisse chanter 3 refrains que j'avais appris en anglais et qui m'ont accompagné toutes ces années, bientôt 50 ans. Le premier, c'est « Je sais qu'un jour, il viendra me chercher. » En anglais, ça me marque plus parce qu'ils disent « Je sais que Dieu prépare un chemin pour moi. » Donc, à des endroits où il n'y a rien, Dieu va enlever les broussailles, va préparer un chemin. Puis, il ne prépare pas une autoroute, il prépare un chemin. Un chemin, on a le temps de sentir la nature autour de nous, de voir les choses. Le deuxième, j'ai confiance en mon Seigneur. Et le troisième, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et souvent, j'ai chanté ces trois refrains, l'un après l'autre. Parfois à voix haute, j'étais seul quelque part, parfois simplement mentalement. Et je continue de le faire, je sais qu'à l'hôpital, je l'ai fait aussi. Et je me réjouis d'être dans la maison du Père. Penser que le Père va confirmer cette sensation de nouveau. Je suis le chouchou de mon Papa du ciel. Et là au ciel, il y aura des millions de personnes qui auront le même sentiment sur le chouchou de mon Papa du ciel. On sera à table, manger un banquet, et Dieu sera présent. C'est formidable, Dieu fidèle. Dieu vous bénisse.